Slate Podcast.
Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Karim, 30 ans, qui semble être comme enfermé dans une spirale du mensonge.
Bonsoir Lucille, je m'appelle Karim, j'ai 30 ans. J'ai un gros problème, c'est un mensonge. J'arrête pas de mentir, je me mens à moi-même. Je sors d'une relation douloureuse, une relation toxique avec mon ex qui était aussi comme moi. C'est dur parce que je voyais ma vie avec elle. Malgré mes mensonges, malgré nos mensonges. Et je voudrais me confier à toi. Comme ça, je me réécouterai en podcast à chaque fois que je sens que je suis en train de tomber. Merci.
Cher Karim, c'est quoi la vérité ? Je pose cette question rhétorique parce que de sa réponse découle naturellement celle de la question autour de la nature du mensonge. J'ai menti plusieurs fois dans ma vie. Je me souviens même de mon premier mensonge. J'ai menti par omission, parfois. Il y a eu des mensonges lourds à porter, et d'autres qui n'ont existé que pour soulager la peine d'autres personnes. En écoutant votre témoignage, je me suis demandé de quand datait mon dernier gros mensonge, un mensonge dont je pourrais avoir honte. Ça fait quelques années déjà, et je m'en suis excusée depuis. Mais en réalité, je mens un peu tous les jours. Je mens quand on me demande si je vais bien, si je me sens bien, si ma santé est bonne. Je mens au chauffeur de taxi, quand il me demande quel métier je fais pour m'éviter une conversation gênante ou désagréable. Je mens parfois juste quand je souris, alors qu'au fond je n'ai qu'une seule envie, celle de me cacher au fond d'un trou. Je mens souvent quand je réponds qu'il n'y a aucun souci, ce que je dis 400 fois par jour. Je crois même qu'il y a un sketch de Blanche Gardin là-dessus, où elle se moque de la mauvaise utilisation des mots « souci » et « problème ». Moi, je crois qu'ils sont justement bien utilisés dans les phrases « pas de souci » et « pas de problème ». C'est ces mots-clés qu'il faut entendre, parce qu'ils soulignent justement qu'il y en a probablement un. Bref, encore des mensonges. Et je crois que quand on accepte un mensonge évident, c'est une forme de participation passive. Les menteurs de ce type ne trompent personne. Il y a aussi la culture américaine du « fake it until you make it », soit en traduction littérale, « fait semblant » jusqu'à ce que ça devienne la réalité. C'est une forme de culture du mensonge. Est-ce qu'on peut être totalement sincère et honnête dans la société dans laquelle on vit ? Est-ce qu'il faudrait alors cultiver un premier degré absolu et ne jamais manier ni l'ironie, ni les euphémismes pudiques ? Je crois personnellement que le seul mensonge qui n'a pas sa place dans nos échanges avec l'autre, c'est celui qui ferait potentiellement du mal. Celui dont on découvre la teneur des mois ou des années plus tard, parce que la vérité finit toujours par ressortir, et qui oblige à réécrire toute une histoire ou toute une relation à l'aune de la trahison. Il y a des gens qui pardonnent, et j'en fais partie. Mais je crois aussi que les dommages créés sont irréversibles. Si on est la personne à qui on a menti, soit on finit par ne plus croire en rien, soit on finit par croire qu'on ne mérite pas la vérité. Et ça, c'est dévastateur. Comment peut-on sortir d'une spirale de mensonges ? Je crois qu'en regardant en face les raisons véritables qui nous ont poussés à mentir, on avance forcément. En acceptant aussi les conséquences de la vérité et le fait qu'elle reste minime par rapport aux conséquences du mensonge lui-même. En mesurant combien le mensonge casse aussi notre rapport à l'autre, à la confiance qu'on lui accorde, à la confiance qu'on s'accorde à soi-même. Même le petit mensonge quotidien du « ça va » quand ça ne va pas abîme nos relations aux autres. Personnellement, j'en ai encore eu la preuve il y a quelques jours, quand, trop épuisée pour mentir, j'ai déballé toute ma vérité et mon ressenti à une personne à qui je ne parlais plus sincèrement depuis des années. Je me suis excusée. J'ai dit que j'avais menti, en faisant croire à un quotidien où tout allait bien. Je pensais l'énerver ou l'agacer avec mon grand déballage, et à la fin de notre longue conversation à cœur ouvert, la personne m'a dit merci. Cette personne, c'est ma mère. Elle m'a même dit « C'est la première fois qu'on parle vraiment depuis 10 ans. ne te referme plus maintenant. » Ça m'a touchée. Et j'ai décidé que les petits mensonges qui restaient dans ma vie n'avaient plus leur place. Leur poids accumulé avec les années était devenu trop lourd. Je m'étais éloignée de tous et de toutes. La vérité a maintenant trouvé une place et je ne vais pas la laisser filer. Je ne connais pas la teneur de vos mensonges, Karim. Mais je sais combien ça pèse sur vos épaules, parce que je viens justement de libérer les miennes. Je vous invite à regarder de l'autre côté et à apprécier combien c'est plus facile et plus doux. Cette révolution dans votre vie est possible. Je le sais bien. Pour parler de mensonges, de leur signification mais également de comment s'en sortir, j'ai rencontré dans son cabinet la docteure en psychologie, Alexandra Osorio.
Est-ce qu'il y a une différence au niveau psy entre le fait de mentir aux autres et le fait de se mentir à soi-même ?
Je commencerai par dire que le mensonge à soi-même vise souvent à valoriser ou à protéger sa propre personne. Dans la théorie de la dissonance cognitive, on propose que chaque individu est habité par un besoin de cohérence interne. Lorsque survient une incohérence au sein des idées qu'une personne se fait d'elle-même ou du monde, elle se trouve dans un état psychologique d'inconfort et elle met en jeu un ensemble de processus qui ont pour finalité de faire disparaître ou de diminuer cette tension mentale ou cette dissonance, comme on l'appelle en psychologie. Alors, se mentir à soi-même est un recours pour réduire cet état de dissonance cognitive. Par exemple, nous pouvons trouver le paradoxe de la viande. Si je n'aime pas faire du mal aux animaux, mais que j'aime la viande, j'ai réduit cette dissonance cognitive, cette tension, ce conflit interne, en me disant qu'il est normal, beaucoup de gens en mangent, que c'est naturel, d'autres animaux mangent des animaux, et que c'est nécessaire, c'est bon pour ma santé. Sinon, je pourrais me rendre malade. Donc, les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes peuvent être fausses de fois, sans être mensongères. Ces représentations biaisées ne sont pas obligatoirement les résultats d'une construction en vue de la poursuite d'un objectif. C'est pour me protéger. Ceci représente une différence très importante, une différence psychologique entre se mentir à soi-même ou le fait de mentir aux autres. Parce que nous devons savoir que le mensonge à autrui implique induire intentionnellement les autres en erreur pour causer un préjudice. Nous, les psychologues, la psychologie, cherche à identifier ces besoins cachés derrière le comportement mensonger et favorisant une analyse fonctionnelle des conduites mensongères. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'expliquer le motif, la raison pour laquelle un être humain dit une autre chose qui est différente de la réalité. Il y a trois possibles raisons. La personne ment par ignorance, elle ne connaît pas, elle se rend pas compte de ce qu'il dit, et par un besoin de prendre soin de soi, par souci des conséquences qu'elle envisage, si dire ce qui est peut avoir vraiment des mauvaises conséquences sur elle. La personne cherche à se préserver et cherche à dire une autre chose différente de ce qui est de la réalité pour réussir un bénéfice. Une autre raison, c'est nous pouvons mentir pour prendre soin de l'autre. Quand je pense que dire la vérité peut être douloureux pour l'autre et que je ne veux pas être désagréable ou nuisible en disant la vérité. Nous pouvons dire que la personne qui choisit de faire du mensonge un mode de vie possède un certain nombre d'objectifs très précis. Un désir de pouvoir, des statuts, des dominations, d'intérêts personnels. Et ça, ce choix, cette idéologie de faire ça à un moment donné, de se prioriser au détriment des autres, ce qui rend la différence entre se mentir à soi-même et mentir aux autres.
En tant que psy, est-ce que vous voyez le mensonge comme une chose, une bonne chose, une chose neutre, ou plutôt quelque chose que vos patients doivent apprendre à arrêter?
Je pense qu'il n'y a pas de réponse correcte à cette question et que ceci doit être abordé en fonction de la situation. Pour moi, cela passe par l'intentionnalité qui se cache derrière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est bienveillant le fait de ne pas dire ce qui est? Nous pouvons distinguer trois formes de mensonges de gravité différentes. Le mensonge prosocial de politesse, c'est celui que l'on accomplit pour rendre service, ne pas faire de peine, ne pas choquer, protéger, voire sauver. Le mensonge joyeux, c'est celui qui fait rire, que l'on pratique pour se distraire, pour le plaisir, raconter à nos enfants que le Père Noël existe, ou celui pour survivre. Par exemple, devant la Gestapo, le mensonge est un devoir. Enfin, il existe le mensonge pernicieux, celui qui est destiné à faire du mal à autrui ou à obtenir des avantages indus. C'est celui des escroqueries et c'est ce dernier qui est évidemment le moins accepté. Je dirais qu'il est intéressant d'accepter que ça existe à côté de ces mensonges proscrits, des mensonges excusables, voire souhaitables dans certaines circonstances. Les mensonges de politesse font partie des habiletés sociales indispensables à l'établissement des rapports interpersonnels harmonieux. Les mensonges qui sont protecteurs d'autrui, ce sont des mensonges de politesse. Ces types de mensonges sont réellement instructifs et impliquent la mise en relation des deux dimensions différentes de la vie sociale. D'un côté, l'univers des règles morales qui déterminent ce qui est bien et ce qui est mal et indiquent comment les individus doivent se comporter les uns vis-à-vis des autres en fonction des principes de justice et de respect. D'un autre côté, les conventions sociales qui définissent les règles qui stipulent quels sont les comportements attendus dans un groupe en fonction des circonstances, du statut et du rôle des personnes et qui servent à la coordination sociale. Alors, le mensonge de politesse met en tension ces deux domaines. Les règles morales qui incitent à ne pas mentir et les règles de bienséance qui visent à rendre harmonieuses les relations sociales. Il est très important de savoir faire la distinction entre ces deux types de tendances. Alors, pour moi, ça serait le recours aux mensonges pernicieux, nuisibles à autrui et à long terme propres aux menteurs qui devraient être stoppés. D'autre part, il me semble intéressant de répondre à cette question sous une perspective éducationnelle. Sur l'évolution problématique de certains enfants, les recherches actuelles suggèrent que on doit prêter attention à deux paramètres. Un paramètre quantitatif. Entre 4 ans et l'adolescence, la fréquence des mensonges doit aller en diminuant. On doit faire attention à ça. Et un paramètre qualitatif, parce que vers 7-8 ans, on doit voir apparaître et augmenter en fréquence les mensonges prosociaux et assister à la régression des mensonges pernicieux. Ça, c'est très important. Il faut aussi tenir en compte, à mon avis, les variations culturelles. Du côté des similitudes partagées entre les diverses cultures, les mensonges altruistes sont presque toujours mieux tolérés que les mensonges égoïstes et les mensonges dirigés vers un membre d'un autre groupe sont aussi mieux acceptés que ceux qui sont dirigés vers un membre de son propre groupe. D'un autre côté, l'examen des variations culturelles dans l'acceptation des mensonges est révélateur des normes et des valeurs culturelles qui sont souvent implicites.
On parle de spirale du mensonge ou du fait qu'un mensonge en amène toujours d'autres. Est-ce que vous savez comment on casse ces schémas ?
D'une manière simple, je pense qu'avouer les mensonges devient une façon très très pratique de quitter cette spirale d'un mensonge qui entraînerait un autre. Car cet aveu peut impliquer le pardon. Mais ceci à condition que l'aveu ne soit pas lui-même mensonger et qu'il ne constitue pas une sorte de mensonge au second degré, une position de repli. En tout cas, je pense que c'est notre attitude qui doit changer. Le fait de nous dire que l'autre est un menteur ou un manipulateur pervers ne permet pas de changer la situation. Au contraire, le fait de constater que quelqu'un prend soin de lui à partir de ses blessures du passé, le fait d'adopter un regard différent va permettre de vivre la situation différemment pour nous, d'adoucir nos ressentis, de regarder, de regagner notre paix intérieure. À partir de ce changement personnel, les choses pourront bouger. Cela commence par nous-mêmes. On peut casser cette spirale du mensonge alors en apprenant de nouveaux schémas de perception sur nos relations aux autres et sur le monde. Pour cela, on se sert de l'affirmation de soi. Cette affirmation de soi est une manière très constructive de rompre ces dynamiques relationnelles qui sont dysfonctionnelles et permet de rester en relation directe avec la réalité, avec ce qui est et avec ce qui se passe réellement, tout en respectant ce que je ressens et ce que l'autre ressent. Je le présente souvent sous la forme d'un protocole en 4 étapes. La première étape, c'est celle de l'observation et de la description factuelle de ce qui est, de la réalité. Je ne parle pas de vérité, je parle de réalité. Parce que la vérité, elle est relative. Je dirai à l'autre, je vois quelque chose et je t'entends dire le contraire ou une autre chose. Alors, il n'y a pas de jugement, je reste neutre et factuel. Ceci permet à l'autre de ne pas se bloquer, de rester en relation avec nous et d'avoir une base commune sur laquelle continuer à nourrir la discussion et la relation, les échanges. C'est très important. Le deuxième point serait de parler de notre ressenti d'une manière explicite. Par exemple, en disant « Quand tu me dis ça, je me sens assez interrogatif, je me sens révolté, je me sens agacé. » Je ne comprends pas. J'ai besoin de clarté. J'ai besoin de compréhension. Si mon besoin correspond à un manque de confiance, je peux dire « je suis triste » car j'ai besoin de vivre la confiance dans la relation. Ça change énormément la situation. L'autre n'est pas jugé, ne se sent pas jugé, se sent respecté surtout. Le troisième aspect, c'est identifier ce besoin qui n'est pas nourri. Comme je viens de le dire, c'est besoin de clarté. Et en quatrième, je pose une demande explicite, une demande de connexion. Du type, est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui te fait dire ce que tu dis? Par exemple, je peux aussi proposer une demande d'action. Serait-il possible pour toi de faire quelque chose de différent? Alors, retenons ces 4 étapes. Observer la situation, être consciente de ce que je ressens, bien définir mes besoins et formuler des demandes de manière explicite. Peut-être, c'est comme ça, en s'intéressant sincèrement aux raisons qui conditionnent le besoin de l'autre de s'éloigner de la réalité, je lui offre la possibilité d'une autre expérience de la relation, la possibilité du respect, la possibilité de la compréhension de ses besoins et de ses ressentis. Cette attitude peut contribuer à casser réellement cette spirale du mensonge. Mais il se peut aussi que l'autre reste indifférent à ce mode de comportement. Alors, il faut toujours chercher à nous préserver. En commençant par nous poser la question « Qu'est-ce qui est bon réellement pour moi ?» Il est important de comprendre qu'avec un esprit éclairé, nous cherchons à nous préserver, sans fermer nos cœurs. Et quand je parle d'esprit éclairé, je parle d'une manière de réflexion équilibrée entre l'émotion et la raison au même niveau. Nous allons pouvoir dire à ce moment « Stop, arrête, je me protège de tes actions, je peux même m'éloigner de cette relation, mais je ne vais pas nourrir dans mon esprit une image d'ennemi. Je ne vais pas valider des étiquettes avec des jugements moraux négatifs sur l'autre. » Et je ne ferme pas mon cœur, comme je l'ai dit. Ceci facilite, même en cas de tristesse ou de déception, le maintien d'un sentiment d'empathie qui pourrait me permettre de comprendre l'autre en tout type de situation. Je deviens beaucoup plus tolérant et surtout, je préserve mon équilibre personnel et ma légèreté d'esprit.
Sur le sujet du mensonge et de cette spirale du mensonge, est-ce que vous avez des références bibliographiques ou des films, des séries télé à conseiller à nos auditrices et auditeurs?
Oui, il y en a plusieurs sujets intéressants par rapport au livre et surtout en relation des couples, l'infidélité et ce type de situation. J'aime bien un livre qui s'appelle en français « Je t'aime, je te trompe » écrit par Esther Perel. Et c'est un traité très audacieux, comme on le dit, sur l'infidélité pour comprendre la complexité de chaque individu face au couple, à l'amour et au désir. C'est une vision vraiment très intéressante où on cherche à nourrir cette attitude que j'ai décrite tout à l'heure de compréhension, de recherche d'empathie, de solutions, de respect de l'autre dans ses besoins. Après, d'un côté un peu plus psychologique, un côté neuroscientifique, il y a le livre par Sam Harris qui s'appelle « Mensonge ». Et il s'interroge dans cet essai « Qu'est-ce que nous allons à gagner et à perdre en mentant ?» J'ai un autre livre à recommander, c'est « Mensonge aussi » de Xavier Serron. Il est un livre plutôt spécialisé dans la psychologie, la neuropsychologie, dans lequel on peut trouver des réponses assez intéressantes par rapport à autour du mensonge.
Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir le roman L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, adapté au cinéma par Nicole Garcia sous le même titre. L'Adversaire raconte l'histoire vraie de Jean-Claude Roman, qui a menti à sa famille et à ses proches sur son activité professionnelle et qui, au moment de voir son secret révélé, a assassiné ses parents, son épouse et leurs enfants. Un cas extrême qui montre jusqu'où peut mener la spirale du mensonge. C'était C'est compliqué, le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire restent toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.